Au micro, Idrissa Seloudia, bonjour, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Actualité oblige, cette édition sera en grande partie consacrée au coup d'état d'hier en Guinée contre le président Alpha Condé. Des officiers des forces spéciales guinéennes ont affirmé hier l'avoir capturé, pris le contrôle de Conakry et dissous les institutions. Ces forces spéciales sont dirigées par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Il a lu à la télévision nationale une déclaration au nom de CNRD, Comité national du rassemblement et du développement, aux côtés de putschistes en uniforme et en armes. Le coup d'État a été condamné par la communauté internationale. Dans quelques instants, une page spéciale sur la Guinée, avec notre correspondant sur place, Zakaria Camara, Eric Manirakidza, Yacouba Ouedraogo et Bagassi Koura. Ailleurs en Afrique, le parti politique de l'ancien dictateur gambien Yahya Jammeh a annoncé hier une alliance avec le parti du président Adama Barrow à 3 mois du scrutin présidentiel du 4 décembre en Gambie, ce qui jette un doute sur la volonté de poursuivre l'ex-dirigeant pour des violations présumées des droits de l'homme. En République centrafricaine, arrestation à Bangui d'un important ancien chef d'une des milices accusées de crimes contre l'humanité par l'ONU pendant la guerre civile dans ce pays. C'est ce qu'a annoncé hier à l'AFP le ministre centrafricain de la Justice. L'ex-capitaine Eugène Barrett-Nkosi est surnommé par la presse centrafricaine le boucher de Paoua en rapport à des massacres commis dans ces villes du nord-ouest par l'armée de 2005 à 2007, lorsqu'il était un des commandants de la redoutable garde présidentielle du président déchu, François Bozizé. Au Rwanda, le président Paul Kagame a rejeté hier les nombreuses critiques formulées à l'encontre du procès pour terrorisme visant Paul Rusesabagina, dont l'histoire a inspiré le film Hôtel Rwanda. Il est jugé pour son soutien présumé au FLN, groupe rebelle accusé d'attaques en 2018 et 2019, ayant fait 9 mois au Rwanda. M. Kagame a déclaré dans une interview à la télévision nationale, « Il est ici en train d'être jugé pour cela, cela n'a rien à voir avec le film ». Rien à voir avec son statut de célébrité. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma, incarcéré depuis le 8 juillet pour outrage à la justice, s'est vu accorder une remise en liberté conditionnelle pour raisons médicales, ont annoncé dimanche les autorités pénitentiaires sud-africaines. En Afghanistan, le Front national de résistance a promis lundi qu'il continuerait le combat contre les talibans, qui est leur partenaire dans la vallée du Panjshir, dont ces derniers avaient un peu plus tôt annoncé avoir pris le contrôle complet. Il affirme retenir des positions stratégiques dans la vallée. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est parti hier pour le Qatar pour son premier voyage depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, à la recherche d'un front uni avec les alliés. Il se rendra ensuite mercredi sur la base aérienne de Ramstein en Allemagne, qui accueille temporairement des milliers d'Afghans en route pour les États-Unis. Une réunion ministérielle virtuelle sur la crise est prévue avec les responsables de 20 pays aux côtés du ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas. 6 prisonniers palestiniens, dont un ex-leader de la branche armée du mouvement Fatah, se sont évadés lundi avant l'aube d'une prison dans le nord d'Israël via un tunnel creusé sous un évier, ont indiqué les autorités locales. La police israélienne a lancé une vaste chasse à l'homme épaulée par l'armée qui a mis à sa disposition des dispositifs d'observation aérien. Ici aux États-Unis, un ancien tireur d'élite de l'armée américaine, Brian Riley, a tué dans une fusillade dans le centre de la Floride 4 personnes dont un nourrisson dans les bras de sa mère. Le motif de l'attaque n'était pas clair dans l'immédiat. Une enquête est en cours, ont indiqué hier les autorités. Malgré la pandémie de COVID-19, le monde ne peut pas différer les mesures urgentes à prendre contre le réchauffement climatique et la destruction de la nature qui menace la santé humaine, prennent ce lundi les principaux journaux médicaux. présent, notre page spéciale sur le coup d'État en Guinée, où les militaires au pouvoir, depuis dimanche, après avoir renversé le régime du président Alpha Condé, ont décidé, je cite, de dissoudre la constitution en vigueur et aussi de dissoudre les institutions, tout en annonçant la rédaction de nouveaux textes pour le pays. Avec à sa tête un officier de l'armée guinéenne, le Comité national de rassemblement et du développement promet de rendre le pouvoir aux civils. Notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
Le couvre-feu est ramené de 22h à 20h par les militaires. Les gouverneurs et les préfets sont également remplacés par des hommes en tenue. Une réunion est convoquée ce lundi au Palais du Peuple à Conakry. Toute absence est considérée comme un acte de rébellion contre le Comité national de rassemblement et de développement, préviennent les militaires dans un communiqué lu dimanche soir à l'heure de journal télévisé par un officier. Le président Alpha Condé, lui, renversé par un coup d'état militaire dimanche, n'a fait aucune apparition depuis que les militaires ont annoncé l'avoir capturé et gardé en lieu sûr. La classe politique n'a pas réagi, préférant avoir suffisamment d'éléments pour se rassurer. Le CNRD appelle les fonctionnaires à reprendre le travail ce lundi. Il assure que toutes les dispositions seront prises pour garantir la sécurité des citoyens. Toutes les unités de l'intérieur sont demandées de garder la sérénité et d'éviter tout mouvement vers Conakry, recommandent les militaires au pouvoir.
Zakaria Camara a tendu son micro à certains Guinéens de la capitale Conakry. Voici leur réaction.
Dès le moment qu'il y a une action qui est faite, il faudra que la suite soit une suite positive. Positive dans le sens d'aider le peuple de Guinée. Nous vivons les faits, nous vivons ce qui est vécu. Donc dans le sens de créer une amélioration en ce qui concerne la Guinée en tant que telle. Parce que vous savez, la Guinée est un beau pays.
C'est déjà la joie. Moi, je me dis que c'est déjà la joie, je suis très content de cela, parce que vu la conjoncture, la façon dont nous vivons aujourd'hui, c'est sincèrement très dur. Je pense que c'est une bonne nouvelle déjà. Le vieux, il est fatigué, il faudrait qu'il s'en aille, et qu'il y ait un nouveau éclat pour le pays.
Nous pensons, on était avec un régime qui applique la dictature pure, où personne ne sait maintenant quel faire. Parce que les gens se posaient la question. Vu que la Guinée a passé beaucoup de temps avec les difficultés, peut-être c'est le moment de la solution. C'est l'armée là qui est venue aussi pour donner le bon souffle aux Guinéens. Nous le souhaitons. Mais cela ne veut pas dire qu'on a la confiance à 100%. Parce que les militaires sont des militaires.
Depuis qu'il a eu l'indépendance, même Sékou, il était derrière l'armée. Donc, si l'armée d'autres vient, civil est venu, toujours c'est l'armée qui gère le pouvoir. Le pouvoir guinéen trouve dans la main de l'armée, depuis au temps de Sékou. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. On doit être toujours croire à l'armée jusqu'à avoir un changement pour ce qu'on voulait.
Toujours avec notre correspondant Zakaria Camara, retour sur cette journée de putsch. Tout a commencé dimanche et en quelques heures, les choses ont très vite évolué. Le pouvoir a changé de main et le coup d'État est confirmé par les militaires.
Conakry s'est réveillé dimanche avec des tirs d'armes automatiques à Kaloum. Le centre-ville qui abrite des quartiers administratifs et le palais présidentiel. La commune sera très vite militarisée et bouclée. Quelques heures après, un colonel de l'armée guinéenne annonce à la télévision publique la prise du pouvoir. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya dénonce entre autres le dysfonctionnement des institutions républicaines.
La situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement de droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont amené l'armée guinéenne à travers le Comité national du rassemblement et du développement à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée dans sa totalité.
Le Comité national pour le rassemblement et le développement est annoncé ainsi que ses premières décisions.
Nous avons décidé à partir de l'instant de suivre la constitution. Alors nous allons écrire une constitution ensemble. C'est facile. Quitte à nous. Nous allons nous rassembler les quatre régions, la diaspora, les gens de l'étranger, tous ensemble, et nous allons faire une consultation inclusive pour décider de la vie politique. La personnalisation de la politique, de la vie politique est terminée. Et nous allons plus confier la politique à un homme. Nous allons confier au peuple. Nous devons indépendre qui a le devoir d'un soldat de se développer. La seule chose qui nous amène, c'est ça.
L'homme qui a dirigé les opérations est l'actuel commandant du groupement des forces spéciales, ancien légionnaire de l'armée française. Son discours est scruté par l'analyste politique Kabine Fofana.
Je pense qu'ils ont été assez évasifs, et je crois que dans leur déclaration qui allait très rapidement, qui n'était pas écrite d'ailleurs et qui était assez décousue, comme je l'ai dit, ils ont juste voulu marquer d'une certaine façon la prise du pouvoir en venant devant les caméras de la première chaîne publique pour dire c'est nous qui sommes aux affaires, nous contrôlons les choses, même si en gros il n'y a pas de déclaration forte qui doit rassurer et qui pourrait amener une quelconque opinion, se faire une idée sur ce que pensent un peu ces pushistes-là et quelles en sont en réalité les motivations et quelles pourraient être en gros ce qui va suivre.
Les pushistes ont fait un clin d'œil à l'opposition guinéenne en annonçant le retour des civils au pouvoir, mais pour l'analyste politique, il en faudrait bien plus.
Contrairement en 2008, cette fois-ci, je pense que les militaires, en arrivant à la RTG au visa de la première déclaration, ils ont juste voulu matérialiser un classique dans les coups d'État. S'il faut faire une déclaration devant les caméras de la chaîne de télé, donc si vous remarquez, il n'y avait pas de discours écrit en tant que tel. Et c'était assez décousu. Donc pour le moment, ce n'est pas des grandes annonces qu'on pourrait prendre en compte et à travers lesquelles on pourrait naturellement se dire voici la vision de Doumbouya. Je ne pense pas que la classe politique devrait prendre tout de suite en compte cette déclaration-là. Il faut attendre que la prise du pouvoir soit effective et que tout entre sous la coupe du colonel Doumbouya et de ses hommes pour pouvoir savoir effectivement qui écouter. Pour le moment, c'est de l'imbroglio, il faut le dire ainsi. Je pense que la classe politique, notamment l'opposition et les autres partis politiques, même si le FNDC s'en est allé un peu rapidement, je pense qu'ils prendront le temps d'écouter, de voir les choses de façon assez plus claire avant de prendre une quelconque décision.
Les militaires ont ensuite paradé dans la ville. Ils ont été acclamés par des Guinéens qui ont manifesté leur joie dans certains quartiers de la capitale. Ils ont promis la rédaction d'une nouvelle constitution. La personnalisation de la vie politique est terminée. Nous allons remettre le pouvoir à un homme, promettent les militaires. Conakry, Zakaria Camara, pour VOA Afrique.
La CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies ont condamné ce coup de force appelant les putschistes guinéens à libérer immédiatement le président Condé. Eric Manirakidza fait le point.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné dans un tweet toute prise de pouvoir en Guinée par la force et du fusil, appelant à la libération immédiate du président Alpha Condé. Le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, condamne toute prise de pouvoir par la force et demande la libération immédiate du président Alpha Condé et appelle à une réunion d'urgence de l'organisation. Le président en exercice de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, de son côté, exige le respect de l'intégrité physique du chef de l'État guinéen, sa libération immédiate et le retour à l'ordre constitutionnel sous peine de sanction.
Qui sont ceux qui sont à la tête de ce coup de force et vont-ils céder à la pression de la communauté internationale? Yacouba Ouédraogo a joint à Conakry Sori Traoré, journaliste éditorialiste à Guinée7.com.
C'est le colonel Doumbouya qui a travaillé pour l'armée française, un Guinéen, qui est venu à Guinée et qui a été mis par le président Condé à la tête de la force spéciale pour lutter contre le terrorisme sous la houlette de ce comité national et les choses se passeront désormais.
Justement, le colonel Doumbouya, dans sa déclaration élue à la télévision nationale, parle de gabegie, d'instrumentalisation de la justice, entre autres. Est-ce qu'on a vu ce coup de force venir?
Je veux vous dire non, honnêtement non. Il faut dire que ça c'est un peu le discours de l'opposition guinéenne. Vous savez que le président Condé est à son troisième mandat parce que la constitution a été changée. Et donc, quand même, l'opposition guinéenne avait beaucoup de griefs contre la gestion du président Condé. Mais je crois qu'on n'a pas vu cela parce qu'il n'y avait pas de difficulté particulière autour du président. Il y a deux ou trois jours, il est rentré des vacances, il se promenait, il est habillé à travers Salou, à travers le centre-ville. Il est allé dans trois départements du ministère pour vérifier la présence des ministres. Hein.
Cette force spéciale dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya est une faction de l'armée. Et le reste de l'armée, qu'est-ce qu'elle en dit?
Pour le moment, il y a eu un communiqué du ministère de la Défense qui taxe des coutures d'assaillants et qui dit que les assaillants ont été recrutés. Et ce communiqué dit que le ministère est en train de faire le ratissage au niveau de Kaloum. Mais je vous fais remarquer que ce communiqué a été envoyé à la presse par un service de communication du gouvernement avant que le colonel Doumbouya ne fasse son apparition à la télévision nationale.
La communauté internationale, je vais parler du secrétaire général de l'ONU, la CEDEAO, l'Union africaine, condamne ce coup de force et appelle à la libération immédiate du président Alpha Condé et au retour à l'ordre constitutionnel. Pensez-vous que cela puisse faire pression sur ceux qui ont fait ce coup de force?
Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où les poussistes demandent même au président Condé s'il a été brutalisé ou pas. Il ne répond pas, mais apparemment, c'est un faux discours. Ils ne sont pas là pour lui faire du mal. Certainement, ils vont le libérer.
Sori Traoré, journaliste éditorialiste à guinée7.com, joint à Conakry. Je vous propose maintenant cette réaction d'un membre de la diaspora guinéenne, Amara Camara, qui vit en Virginie, ici dans la région de Washington. Pour lui, ce putsch n'a pas sa raison d'être.
Le coup d'État aujourd'hui en Afrique, écoutez, pour moi, on devait dépasser ce stade-là aujourd'hui. On n'est plus au stade où nous devons gérer l'Afrique à travers des coups d'État. Les populations, chaque fois qu'il y a un coup d'État, c'est comme un recommencement à zéro. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai appris de la même façon que vous tous, sur les réseaux sociaux, sur les médias. On attend la suite. On espère qu'il n'y ait pas de fusion de sang.
Alors, à la télévision nationale guinéenne, les poutistes ont avancé plusieurs raisons. Et ils ont notamment dit qu'ils veulent rendre le pouvoir au peuple. Qu'est-ce que vous pensez de ces arguments-là?
Mais le pouvoir au peuple, ça peut se faire, ça s'arrange sur table ronde. Moi, c'est ainsi que je trouve. Hein. Nous sommes tous des adultes, on a vécu les pouvoirs et les pouvoirs. C'est pas depuis le temps de s'étudier. Juste là, on ne devrait pas continuer à travers les armes. Ça peut se faire, ça se règle sur table ronde, en fait. La diplomatie devait être la première étape.
Et comment est-ce que vous voyez la suite?
Bon, la suite, comme tout bon musulman, je ne ferai que prier pour que le pays soit en paix. C'est ce que je peux dire. C'est inquiétant, la suite, on ne peut pas prédire ce qui peut arriver. Hein. Prions tous qu'on traverse ce moment dans la paix. Quelle que soit la réaction des militaires, ce qu'ils ont fait, c'est pour que le pays soit heureux. Donc, on prie tous pour que le pays soit dans son confort et dans le bonheur et la prospérité.
Est-ce que vous avez les nouvelles de vos proches au pays?
Oui, j'ai eu mon frère là-bas. Mes deux frères, ils vont tous bien. Ils disent qu'il y a le calme pour l'instant. Bon, on prie que ça continue ainsi. Ça va, Dieu merci.
Amara Camara, joint ici en région washingtonienne, en Virginie même, par Bagassi Koura. Ainsi se referme cette page spéciale sur le coup d'État en Guinée. Merci à notre correspondant Zakaria Camara à Conakry. Et ici à Washington, Eric Manera-Kilda, Yacouba Ouedraogo et Bagassi Koura, ainsi que Michel Jeunet.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
des éléments de la police nationale ont bruyamment manifesté vendredi dernier dans les rues de la capitale Bamako avec des tirs de sommation suite à la mise sous mandat de dépôt du commissaire divisionnaire Omar Samake par le juge d'instruction de la commune 3. Une manifestation qui a abouti à la libération de M. Samake. Notre correspondant Mohamed Danyoko revient sur cette chaude soirée.
Un regroupement sommaire dans la cour du groupement mobile de sécurité, des tirs de sommation, des barricades aux alentours du camp de la police et ensuite un convoi vers la maison centrale d'arrêt de Bamako pour extraire le commissaire divisionnaire Omar Samake, placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du tribunal de la commune 3. C'est ce à quoi ont assisté ébahis de nombreux habitants de la capitale le vendredi 3 septembre dernier dans la soirée. Une situation aussitôt dénoncée par plusieurs associations, dont l'association malienne des droits de l'homme à laquelle appartient Drissa Traoré.
Et nous condamnons fermement et avec véhémence cette libération extrajudiciaire qui constitue une atteinte grave et sans précédent à la démocratie et à l'état de droit au Mali.
Le commandant Omar Samake, à la tête de la force antiterroriste, avait été inculpé pour meurtre à la suite de la répression des manifestations contre le président Ibrahim Boubacar Keïta les 10, 11 et 12 juillet 2020. Pour des citoyens, cette inculpation visait à faire plaisir au M5-RFP dont les leaders sont actuellement aux affaires et à l'appel desquels les victimes avaient répondu. Ibrahim Adia.
C'est dans le but de faire plaisir quand même au M5 qui détient aujourd'hui la primature et qui tient à ce que les victimes quand même soient quelque part quand même la famille des victimes puisse être quand même mise en tout cas sur leurs droits.
Une plus grande clarté dans l'action de la justice, c'est ce qui selon certains pourra mettre fin à ces débordements. Mamadou Dabou Traoré.
C'est complètement inadmissible ce qui s'est passé, surtout venant de la part de ceux-là qui sont dépositaires de l'ordre et de l'autorité publique. Malheureusement, nous nous rendons compte que ces derniers temps que dans notre pays, beaucoup de pratiques juridiques ou judiciaires donnent de tels résultats parce que nous avons vu déjà pour le cas de Ismaël Boubé Maïga que les mêmes praticiens du droit sont divisé, mais complètement divisé, mais à des hauts niveaux par rapport à ce qui se passe si le droit a été dit ou le droit n'a pas été dit.
Dans son communiqué, le gouvernement a rassuré de la poursuite des enquêtes pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
La rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc va rendre très compliqué l'approvisionnement gazier du royaume chérifien. Selon l'agence Ecofin, l'Algérie ne va pas renouveler son contrat de livraison de gaz à l'Espagne via le Maroc, alors que le volume convoyé par l'Algérie représente près de la moitié de la consommation marocaine. De son côté, le Maroc a lancé la deuxième phase des études du gazoduc Nigeria-Maroc. En République démocratique du Congo, les quatre opérateurs de télécommunications Vodacom, Airtel, Orange et Africell ont réalisé un chiffre d'affaires global de 1,5 milliard de dollars en 2020. Ce volume de revenus a été généré principalement par les appels voix, les SMS, le data et le mobile money. Le président américain Joe Biden a assuré vendredi que la croissance économique des États-Unis est durable et forte malgré le ralentissement des créations d'emplois en août à cause du variant Delta. Joe Biden a estimé que son plan de relance fonctionnait, selon ses termes, ajoutant que nous ne sommes pas là où nous aimerions en être dans notre reprise économique.
Merci Claire. À présent, les sports avec Élisée Onkpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Basketball pour démarrer avec le sacre de la Tunisie à la 30e édition de l'Afro-Basket qui a eu lieu au Rwanda.
Oui, les Aigles de Carthage ont remporté pour la deuxième fois consécutive cette compétition en finale disputée dans l'Arena de Kigali. Ils ont battu une vaillante sélection de la Côte d'Ivoire 78 à 115. C'est le troisième titre continental de l'histoire pour la Tunisie. À noter que c'est le Sénégal qui finit troisième en dominant lors de la petite finale son voisin du Cap Vert 86-113.
Football à présent avec la course à la Coupe du Monde qui se poursuit en Afrique avec la deuxième journée.
Et trois matchs ont eu lieu hier avec cette immense déception pour le Gabon accroché à domicile par l'Égypte, un but partout. Les Panthères menaient jusqu'à la 89e minute avant que les Pharaons égalisent dans le temps additionnel. À Kigali, le Rwanda n'a pas pu réagir après sa défaite inaugurale puisque accroché 1-1 par le Kenya et puis à Lomé. Le Togo s'est incliné 1-0 devant la Namibie. Deuxième défaite en deux matchs donc pour les Éperviers.
Cette deuxième journée se poursuit aujourd'hui avec six rencontres puisque le match Guinée-Maroc est reporté.
Tout à fait, à une date ultérieure a confirmé la FIFA et la CAF. Une décision qui fait suite au coup d'État survenu hier dans la capitale guinéenne. Sinon à Cotonou, le match Bénin-RDC aura bien lieu et les écureuils vont tenter de confirmer leur victoire à Madagascar face aux Congolais en quête de rachat.
Élysée, Djibouti et le Niger sont aussi en quête de rachat dans la poule A.
Exactement, Idrissa, pour avoir tous perdu lors de la première journée et au même moment dans la poule E, le Mali sera dans un déplacement difficile en Ouganda. Ces trois matchs démarrent à partir de 13h, temps universel.
La suite des matchs de ce lundi.
À Johannesburg, à partir de 16h, temps universel, l'Afrique du Sud reçoit le Ghana, leader du groupe G. À la même heure, à Monrovia, le Libéria et la Centrafrique vont tenter de se relancer. Et puis le match tant attendu se joue à partir de 19h TU dans la poule D. À Abidjan, la Côte d'Ivoire qui a déçu d'entrée au Mozambique jouera gros face au Cameroun.
Merci, Élisée.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.